société dont on se...
Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, ambrecapon.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de ZAD. Bonne grève. Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement. Du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de se marquer d'un sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Bonsoir, c'est le Canu Info du vendredi soir qui commence. Ni une ni deux. J'avais envie de mettre une petite musique sur le film, ça a pas l'air de marcher.
Ah bah non, il y a pas.
Ah voilà, tout s'explique. Alors normalement, je pourrais faire une musique. Du coup, ce soir, de quoi on va vous parler ? Eh bien, on va vous parler d'abord d'une personne qui vient parler de l'ECG et de l'annexe dont le procès se déroulait, si je dis pas de bêtises.
Ce matin.
Et après, on va parler de quoi ?
Et ben après, on parlera de la nouvelle brochure « Toutes les portes s'ouvrent ».
Et puis oui, le Canu Info du vendredi suit les présidentielles. On va vous parler de Zemmour qui n'arrive pas jusqu'à Dijon.
Et puis pour continuer avec les conneries de l'extrême droite, mais cette fois on va vous parler de camarades, on va vous faire diffuser un reportage sur les inculpés antifascistes dont le procès se tenait hier.
Et ensuite, on verra qu'il y a des bus pour sans but.
On enchaînera avec l'agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Et on vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez toujours nous écrire, nous appeler pour nous donner des ACAB. Le numéro de téléphone, bah, c'est marqué, c'est plus écrit le numéro de téléphone. 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15.
Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends ?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère et agresse la planète entière.
Et oui, de retour dans les studios, on a la chance d'avoir avec nous ce soir une personne qui s'investit à l'espace communal de la Guillotière et à l'annexe, et ça tombe bien, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce matin, il y avait au tribunal le procès de l'annexe. Bonjour.
Bonjour.
Et bien, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux nous dire très rapidement ce que c'est que l'espace communal de la Guillotière, l'annexe et les personnes qui s'y mobilisent ?
Oui, tout à fait. L'espace communal, c'est un squat qui a ouvert il y a maintenant 2 ans dans le 7e arrondissement, et un peu plus précisément sur l'îlot Mazagran. Et l'annexe, c'est en fait l'annexe de l'espace communal, ça c'est un peu la prolongation, et en fait c'est le bâtiment attenant qui a été ouvert en janvier cette année. L'espace communal, ça a été ouvert initialement pas mal à l'initiative du collectif La Guillotière n'est pas à vendre, et donc dans la perspective d'avoir un lieu pour lutter et s'organiser contre la gentrification, et aussi ben, du coup imaginer des activités qui permettent la solidarité entre voisins voisines précaires.
Concrètement, c'est qui les personnes qui s'y croisent, là, le CG et à l'annexe ?
Alors du coup, ben, on a, en plus de ce que j'ai dit, il y a aussi des habitants et des habitantes qui sont logés à la fois à l'espace communal et à l'annexe, qui sont beaucoup des personnes exilées, certaines ou non en demande d'asile, etc. Donc il y a donc, ces personnes-là, plus des voisins-voisines du quartier, qui des fois ont vraiment de manière active maintenant participent par exemple à la distribution alimentaire au marché rouge. Et après, ben, y a des militants, militantes de La Guillotière n'est pas à vendre, ou juste des gens qui se sont retrouvés dans le projet au fur et à mesure.
Et comme tu l'as dit, c'est un squat, et malheureusement, qui dit squat dit souvent répression, et donc il y avait un procès ce matin. Comment, enfin, est-ce que tu veux nous dire d'où il vient ce procès ? Comment vous êtes mobilisés ?
Alors ouais, donc l'annexe de l'espace communal qui a du coup été ouvert en janvier, il appartient à Grand Lyon Habitat, qui est le bailleur, un des gros bailleurs sociaux de la métropole de Lyon. Et donc en fait, après avoir été repoussé deux fois, ce qui nous a permis d'obtenir vraiment beaucoup de mois de délai, le procès s'est tenu ce matin. L'enjeu, c'est que Grand Lyon Habitat voudrait expulser sans délai les habitants et les habitantes, en demandant à ce qu'on ait pas non plus la trêve hivernale, enfin vraiment immédiatement. En fait, je pense que ça s'est plutôt bien déroulé pour nous ce matin. Il y avait un peu du monde qui était présent, et l'avocate de Grand Lyon Habitat n'a pas été hyper virulente. La juge a eu l'air d'entendre un peu ce qu'on avait à lui dire, parce que finalement, en fait, ils ont absolument rien qui est prévu pour le bâtiment, donc il n'y a aucune raison de mettre des gens à la rue dehors dans le froid aujourd'hui, quoi.
C'est du coup concrètement comment ça s'est passé ce matin ? Il y avait des gens dehors en soutien, il y a des personnes qui sont rentrées dans le tribunal pour défendre l'annexe ?
Ouais, exactement. Donc en fait, on avait appelé un rassemblement à 9h, donc il y avait comme d'hab du thé, du café, des choses à manger. Et donc il y avait, je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes. Et en fait, ça y est, les audiences ont à peu près repris normalement, et du coup, tu peux y assister comme n'importe qui. Donc il y avait encore à l'intérieur au moins ça, peut-être un peu plus. La salle était pleine en tout cas.
Et donc là, ça veut dire qu'il va se passer quoi pour les semaines à venir pour l'annexe ?
Bah en fait, là, on attend le rendu du jugement, qui sera le 10 décembre. Et puis, on croise un peu les doigts.
Donc ça permet de continuer les activités.
Ouais, exactement.
Mais est-ce que tu veux nous dire exactement qu'est-ce qui s'y passe au quotidien à l'ECG et à l'annexe ?
Du coup, à l'espace communal et à l'annexe, il y a plein de choses. Je ne sais pas si je pourrais tout citer, mais en gros, il y a toute une partie qui est alimentation, que je disais tout à l'heure. On a un marché rouge, c'est-à-dire un marché où des légumes sont achetés en gros et revendus à prix coûtant le jeudi après-midi. On a une distribution alimentaire qui, elle, est gratuite et qui vient d'un vendu de supermarché, de boulangerie, etc., qui est le vendredi. Je sais pas, la chorale, on a une chorale féministe qui vient répéter le mercredi. Il y a des cours de français, du soutien scolaire, des permanences juridiques. En tout cas, enfin, faut pas hésiter à regarder soit sur le Facebook, soit à passer. On a une permanence d'accueil un peu. On essaye de présenter le lieu tous les mercredis. Donc, c'est de 16h à 19h. Voilà.
Et ça fait quoi d'être en plein milieu de la Guillotière?
Ben, c'est une situation, je pense, qui est très intéressante. Un des enjeux du lieu, c'est de maintenir à la Guillotière des choses qui sont utiles, accessibles et qui permettent aux voisins voisines, les plus précaires, enfin, de continuer à subvenir à leurs besoins, alors que on a des commerces qui, eux, sont de plus en plus orientés vers des populations plus aisées. Pareil, on essaye de s'organiser sur la question aussi des augmentations de loyers ou des logements insalubres, et avec le savoir-faire de tout un chacun, d'accompagner des gens pour que ça se passe mieux au quotidien, et qu'ils se rendent compte que toutes ces problématiques qu'ils traversent à la Guillotière, elles sont c'est pas des problématiques individuelles, mais c'est des choses qui changent sur le quartier en général, quoi.
Et du coup, on sait que le rendu du procès à l'annexe est le 10 décembre. Ça en est où pour l'espace communal de la Guillotière ?
L'espace communal, c'est un peu particulier. Du coup, l'espace communal, c'était un propriétaire privé. On a dépassé depuis très longtemps le très faible délai qui nous avait été accordé de 2 mois, plus la trêve hivernale. Donc l'avantage, c'est que comme on a la trêve hivernale, ça y est, on est de nouveau protégé, puisque ça fait 2 jours que tout va bien. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des rumeurs de rachat par la métropole de Lyon, et qu'on pense que c'est pour ça que, pour l'instant, il ne nous est rien arrivé et qu'on n'a pas été expulsé. Et en attendant, en fait, ce qu'on espère surtout, c'est que le rendu de l'annexe soit favorable, parce qu'on pense que les bâtiments ne sont pas expulsables l'un sans l'autre. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça à Lyon ?
Alors oui, il y a d'autres lieux comme ça à Lyon, enfin à Lyon, à Villeurbanne en l'occurrence. Il y a l'illégalité, je pense qu'ils ont commencé ou ils vont vraiment pas tarder à reprendre des activités. Ils se sont un peu battus avec des punaises de lit pendant quelques temps, mais ouais, et qui du coup ils sont situés à Cusset. Ils ont un peu moins, en fait leur partie habitation est un peu moins développée, mais sinon ils partagent beaucoup d'activités en commun avec ce qu'on fait.
Eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire, toi, pourquoi est-ce que tu milites au sein de cet espace-là ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Je pense que je milite au sein de l'espace communal et son annexe parce que je pense que ça, en fait, ça a une manière un peu radicale, mais au sens propre de radical, de faire de la politique, c'est-à-dire on revient à des choses qui sont un peu fondamentales et en l'occurrence... le logement et la nourriture sont une part importante. Et du coup, je pense que c'est pour ça que pour moi, ça fait du sens parce que je suis capable, en fait, concrètement de voir des gens au quotidien avec qui on s'aide mutuellement. Et on s'aide mutuellement sur des choses. On ne peut pas mener une grève. On peut pas faire le reste de nos activités politiques sans avoir réglé la question du logement et de la nourriture. En tout cas, c'est ce que je pense.
Merci, ça c'est des espaces qui sont très beaux, du coup on vous invite à y aller. Est-ce que tu veux nous donner l'adresse ?
Oui, alors l'espace communal c'est au 45 rue Béchevelin dans le 7e arrondissement et l'annexe on y accède au 27 rue Salomon Rénac.
Et je crois même qu'il y a des moyens de vous rencontrer ce week-end, non ?
Oui, carrément. Le dimanche, on est le premier dimanche du mois et comme tous les premiers dimanches du mois, on fait une journée porte ouverte. C'est-à-dire qu'en fait on propose aux personnes qui sont intéressées de venir à partir de 11h. On met en place la salle ensemble. Et puis, à partir de 12h30, chacun, chacune amène quelque chose à manger. Puis, on partage un repas. Et ce dimanche, ce sera du coup à l'annexe, donc 27 rue Salomon-Rénac. Et il y aura une surprise musicale à 15h.
Et puisqu'il a été dit un mot sur la reprise des activités de l'illégalité, eh bien, je crois qu'il y a notamment une journée le 14 novembre. Donc, c'est dimanche dans une dizaine de jours. Où ils rouvrent un peu les portes, effectivement, de manière tout à fait officielle, avec, je crois, diverses activités sympathiques à partir de 15h.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Et alors, tout ça, l'illégalité, le CG, tout ça, c'est des squats. Et des squats, en fait, c'est du coup le fait d'occuper contre la volonté du propriétaire ou de la propriétaire légitime, dans un but, bien entendu, aussi de lutte contre la propriété, pour faire face aux galères de logement et pour lutter aussi contre, généralement, par exemple, dans le quartier de la Guillotière, on peut imaginer contre la gentrification. On se retrouve pour ouvrir un squat face à une porte qui est fermée. Et la question qu'on se pose toujours, c'est comment on va faire pour ouvrir cette porte ? Il y a une solution maintenant. C'est une brochure qui s'appelle « Toutes les portes s'ouvrent ». Cette brochure se retrouve sur la bog.info. La bog, c'est ce site internet un petit peu comme Rébellion, qui doit être autour de Limoges. Limoges.
Qui est dans le Limousin.
Ah oui. Ouais, c'est pas... il y a pas de... ouais, bref. Et du coup, la question de cette brochure, en fait, c'est de se dire qu'il y a plein de raisons de vouloir ouvrir une porte fermée, mais là, cette brochure, elle a été pensée pour ouvrir des squats. L'intérêt, aux yeux des personnes qui ont écrit la brochure, c'est de partager des connaissances et expériences et de rendre accessibles ces techniques à celles et ceux qui ne font du coup pas partie des cercles dans lesquels ces techniques sont connues et du coup qui voudraient, plutôt que d'avoir un peu des ouvreurs, ouvreuses, expérimentés, professionnels et des relations de pouvoir que ça peut créer, la possibilité pour tout le monde d'ouvrir des squats. Et donc l'idée voilà, de ce brochure, c'est d'être le plus complet possible, le plus clair, mais c'est pas forcément un sésame magique pour une ouverture réussie, et bien sûr c'est limité aux connaissances que les personnes avaient. Et donc c'est majoritairement en fait, c'est ça, c'est que ça se concentre sur les cylindres à goupilles. Pour les personnes qui ont déjà essayé d'ouvrir des portes, bah, du coup c'est souvent des cylindres à goupilles qu'il y a, et du coup voilà, le crochetage, moi j'aime bien cette brochure parce que des fois le crochetage c'est un peu, il y a des brochures qui existent sur le crochetage, mais c'est souvent méga compliqué, et là bah au moins en fait on parle que des portes qui sont faciles à ouvrir, et du coup dans cette brochure on parle, je vous lis la sommaire quand je suis en train de me perdre là, on parle quand même du coup bah d'abord bon, il y a une petite introduction sur c'est quoi un squat, pourquoi, comment, à quoi ça sert. Il y a ensuite une autre partie un peu sur l'anatomie d'une serrure, et ça je trouve ça chouette parce que du coup ça permet de comprendre comment c'est fait une serrure, et du coup bah au moment on est, enfin c'est plus facile du coup de savoir comment la casser si on comprend comment c'est fait, et du coup il y a tout un tas de techniques, donc il y a des trucs un peu plus simples, donc avec une clé ou une pince, donc ça tout le monde peut faire. Le truc un peu plus compliqué qu'un arrachilindre, là, l'arrachilindre bah, c'est hyper pratique, ça marche bien. Par contre, c'est un truc qu'il faut acheter et compagnie. Et sinon, il y avait qu'une perceuse, et c'est pareil, une perceuse c'est bien, mais ça fait beaucoup de bruit. Et il y a un autre truc que je trouve super dans cette brochure, c'est comment construire ta clé de serrurier. Parce que tout ça, l'arrachilindre ou la clé de serrurier, tout, c'est des choses qui coûtent cher, et souvent, bah, le but c'est qu'on est un peu en galère et du coup qu'on n'a pas envie de dépenser des sous. Et du coup, bah, là, c'est comment fabriquer soi-même sa clé de serrurier. Et ça, moi, je trouvais ça vraiment cool que ça existe dans cette brochure. Après, il faut se rappeler que voilà, cette brochure, c'est super, comment ouvrir une porte et tout. Par contre, souvent, la question, c'est pas tant de passer par la porte et que c'est pas forcément le plus simple. Et il faut se rappeler que bah, si j'ouvre une porte, bah, peut-être que du coup, il y a un truc qui va être pété. Ça va être un peu visible derrière, ça fait une trace d'effraction, du coup ça fait plus possibilité d'une comment on appelle ça, une flagrance, du coup de, bah, peut-être d'une expulsion rapide ou d'une garde à vue ou quoi, du coup pas se, forcément se focaliser que sur la porte. Si jamais il y a du coup bah, cette brochure on se la retrouve sur labog.info, et si vous avez envie de donner d'autres techniques, des suggestions de modifications ou quoi, et ben ils ont une super adresse mail qui s'appelle porte-à-porte@riseup.net. Et il y a bien sûr aussi des ressources dans cette brochure, et du coup on peut se rappeler bien sûr que si jamais on cherche d'autres brochures, d'autres questions et tout sur la question des squats, et ben il y a plusieurs brochures qui se trouvent sur infokios.net, donc il y a le squat de A à Z qui est très connu, mais aussi un petit guide de crochetage, il y a un petit manuel d'électricité, je crois qu'il y a pas mal d'autres trucs sur Info Kiosque, et il y a aussi sur un outil qui s'appelle fr.squat.net avec des choses sur, et notamment en fait ils ont remis tous les trucs qui s'appelaient Rafale, et c'était toute une vieille brochure qui a été faite, je sais pas, mais genre vieux que, comme il y a,
non,
y a
c'est pas si vieux Rafale, des gens présents dans cette pièce sont connus. C'était le milieu des années 2010.
Voilà, une vieille brochure.
Et c'était merveilleux. C'était
mais c'était merveilleux, et notamment dans Rafale, il y a, mais enfin, ouais. Il y a pas mal de petits trucs.
C'est une revue en fait de tutoriels divers et variés d'illégalisme en tout genre.
Et dans squat.net, on peut retrouver Rafale et des trucs. Autour de ces questions-là. Donc voilà, si vous voulez retrouver cette brochure qui s'appelle Toutes les portes s'ouvrent, eh ben, faut aller sur labog.info.
Et puisque visiblement on fait un peu les vieilles daronnes ce soir, on peut dire que l'année dernière, les Canu Info du vendredi ont fait une petite coopération avec Mayday. Vous pouvez retrouver deux émissions sur le squat, et je crois même que dans ces émissions, il y a des petits tutoriels aussi.
Et on va continuer au local, parce que voilà, tout ça, tout ce qu'on raconte là, c'est bien entendu illégal, et du coup quand on fait des choses illégales, et ben des fois il y a les risques, il y a des problèmes avec la justice, et là du tout de suite on va parler de justice, on va passer à un reportage qui s'est passé sur la journée d'hier. Du coup il y avait un certain nombre de personnes antifascistes qui étaient inculpées, et du coup les micros du Canu Info étaient devant, et donc voilà le reportage qui raconte ce qui s'est passé.
C'est la seule affaire dans la salle d'audience là-bas, donc...
Canu Info du vendredi.
Du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, mais s'il y a moyen de faire du bruit à partir de 14h pour les copains dedans, qui en ont bien besoin. Donc le procès est ouvert.
Reportage.
Pourrions-nous vivre comme peut-être vous êtes au courant, les 23 septembre, il y a 7 camarades antifascistes qui sont fait arrêter et qui sont été placés en garde à vous. Certains sont fait arrêter chez eux et perquisitionnés, certains dans la rue, certains dans leur centre où ils font leur étude. Et ils sont placés en garde à vous des 48 heures, suite à laquelle les parquets ont décidé d'utiliser une procédure qui est assez nouvelle, qui existe depuis 2019, que comparution immédiate à délai différé. Et ce qui fait qu'ils ont passé devant un juge de liberté qui a institué, qui a placé 4 des 7 en détention provisoire.
Pourquoi ces personnes elles ont été arrêtées?
Elles ont été arrêtées suite à une altercation avec Civitas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupuscule un peu néofasciste qui a fondé entre autres un parti il y a quelques années. Et dont il participe par exemple Gavriac, un ancien des jeunesses nationalistes, qui a été viré même de Front National pour faire le salut nazi, voilà, alors pour se donner une idée. Et qui veut instaurer en France les règnes des Christ et rois, pour dire un peu voilà, la teneur de truc. Il y a une petite altercation sur laquelle il n'y a même pas eu de plainte de la part des Civitas. Et c'est les procureurs qui s'est auto-saisi lui-même dans cette affaire. Ce qui est assez étonnant, vous, les nombres d'agressions fascistes qui s'en suivies depuis quelques années à Lyon et qui n'ont pas eu de suite.
Le procès va durer forcément plusieurs heures, puisque c'est un gros procès politique, il y a 7 inculpés, vous le savez. On s'est dit que ce serait pas mal qu'il y ait des personnes qui fassent l'aller-retour toutes les heures pour donner un peu des infos de ce qui se passe à l'intérieur, pour que vous sachiez à l'extérieur ce qui se passe dedans, où ça en est, comment se passe l'offensive et la défense.
La cantine était là, les stands aussi, et de nombreux soutiens.
Qu'est-ce sur la table là?
Ah, qu'est-ce sur la table? Alors, il y a des croquettes de d'arancini.
Tarte au poireau, tarte au butternut, carottes et sauge, des scones de pommes de terre aux herbes, des tartes au chocolat, des tartes au citron, citron vert.
Relax, pour les 7 inculpés, l'antifascisme n'est pas un crime. Relax.
On est là aujourd'hui pour nos 7 camarades donc, qui sont en procès. Donc ici on a une table, donc la table de presse, elle nous permet de pas vendre quelques goodies, mais en tout cas de vous montrer un peu ce qu'on fait. On a des articles sur l'action de l'extrême droite à Lyon notamment. On documente un peu en quoi l'extrême droite est un danger aujourd'hui à Lyon, et notamment à Lyon où ils sont particulièrement actifs. Donc voilà, bah moi je suis à la table de presse et je suis là pour donner quelques petites infos, quelques petits tips et pour soutenir les copains quoi.
Il y a qui est là comme collectif aujourd'hui?
Alors bon, on a la GAL, il y a qui comme collectif? Il y a le comité de soutien. Des inculpés. Et je ne saurais pas exactement vous dire qu'est-ce qu'il y a comme collectif. Je crois qu'il y a des gens de la jeune garde.
À 15h, on nous apprend que la défense demande à ce que les détenus puissent sortir du box en s'appuyant sur une directive européenne. Malgré les recommandations de la Cour européenne des droits de l'homme, la demande est refusée sous prétexte de sécurité.
Déjà un premier petit rappel de ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'audience elle a commencé. C'est passé qu'il y a les trois détenus qui sont enfermés, ils comparaissaient dans le box. Des accusés, les autres ils ont été appelés un par un. Ça a énuméré pour chaque personne un peu les faits qui étaient reprochés. Du coup c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est violence volontaire sans ITT sur personne qui n'avait pas été déterminée en réunion et groupement en vue de violence ou de destruction. Voilà, il y a une personne qui comparaît libre qui a aussi un refus d'ADN et une autre personne qui comparaît détenue qui a un refus de donner des codes de son téléphone.
Moi je suis là aujourd'hui parce que il y a des gens qui sont jugés pour quelque chose qui est pour moi totalement injuste. C'est-à-dire il y a des gens qui passent au tribunal alors qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, qu'il n'y a pas de blessés. Et pour une bagarre avec contre un autre camp, et dans l'autre camp, il n'y a personne qui est inquiété par la justice. Voilà, c'est pour ça que je suis là.
Ouais, on est pas mal, j'ai l'impression. On commence à être une bonne cinquantaine, voire même un peu plus, je sais pas.
Pourquoi caméra sans répit, n'épis-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent. Pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on n'en peut vraiment plus. Oh, oh, pourquoi caméra sans répit, n'épis-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent. Pourquoi ne les vois-tu?
À 16h, nouveau point à l'extérieur. Les avocats de la défense demandent plusieurs nullités dans la procédure, notamment sur l'utilisation des fadettes, c'est les factures détaillées, en dehors du jour des faits. Mais aussi sur les perquisitions, car il n'y a pas eu de demande au juge des libertés et de la détention pour toutes. Enfin, la dernière demande vise l'utilisation de la vidéosurveillance, car les enquêteurs n'ont pas avisé le ministère public pour la demande de vidéo.
Donc les fadettes, c'est ce qui est lié au téléphone portable pour géocaliser les inculpés en dehors du 28 août, qui est la journée qui est censée intéresser la procédure et le tribunal. Et donc ils ont été pendant une bonne partie du mois de septembre géolocalisés alors même que le ministère public et la police connaissaient déjà leurs adresses. Donc cette utilisation de la géolocalisation est considérée comme étant une atteinte à la liberté au titre du respect de la vie privée.
Et voilà, et aussi donner un peu des nouvelles des copains détenus particulièrement, qui ont l'air tous très fatigués, donc je pense qu'ils ont très fort besoin de nos soutiens. On espère qu'ils n'auront plus besoin de nos courriers après ce soir, mais voilà, se rappeler que ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est vraiment la mort, et que c'est important qu'on soit tous là ici aujourd'hui et qu'on reste jusqu'au bout. Voilà.
Depuis, quatrième garde, comme je l'ai dit, on est placé en détention provisoire, dont un d'entre eux, il a été envoyé à la prison de Villefranche au lieu d'aller à Corva pour les séparer des trois autres. Et ce qui fait qu'il a été plus loin de sa famille aussi, ça a été beaucoup plus compliqué d'avoir des parloirs, etc. Les trois autres, ils sont en contrôle judiciaire assez strict. Et depuis, les quatre qui ont été incarcérés, ils sont passés à plusieurs reprises devant un juge de liberté pour statuer de leur mise en liberté en attendant les procès. Un a obtenu sa liberté, les trois autres ils sont restés en prison depuis, malgré qu'ils ne tiennent pas trop, qu'ils continuent d'être en prison. Voilà.
À l'extérieur, comment le soutien s'est organisé?
En fait, assez vite, il y a un comité de soutien qui s'organisait entre des amis, des personnes appartenant à la famille, au cercle proche et aussi au cercle de groupes politiques auxquels certains appartiennent. Et on a commencé à se diviser un peu des tâches qui nous semblaient un peu essentielles, dont comment faire de l'argent pour les avocats, pour leur envoyer des mandats en prison à ceux qui étaient prisonniers. On a commencé aussi à rédiger une tribune qu'on a publiée la semaine dernière sur Mediapart, qui a été signée par 119 personnes, des universitaires, des avocats, des juristes, des écrivaines. Voilà, ils ont signé cette tribune. Faire des communiqués et essayer de faire le maximum de bruit de cette justice de section qui devient de plus en plus énorme, comme on peut voir. Aussi, on a organisé des soirées soutien, encore pour faire de l'argent, pour visibiliser, contacter des médias, contacter des journalistes. Il y a un peu tout le monde s'est agité de tous les côtés, imprimer des tracts, faire des banderoles, voilà. Et organiser, faire un appel massif un peu à cette journée de procès pour qu'il y ait un peu de monde en solidarité et soutien avec les syndicats.
À plusieurs milliers, on s'en prend un levé, avec nos sabots, ils ont les pavés. Écoutez les revendications, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez les revendications, ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation.
On a su qu'il y avait le procès des sept qui ont été inculpés pour soi-disant des coups, des invectives contre un groupe Kiwitas, qui lui est un groupe fasciste, constitué, et qui n'a pas du tout été inquiété, alors que dans une altercation, il y a toujours deux parties. Et comme par hasard, ce sont toujours les mêmes qui sont inculpés. Voilà, donc nous, on proteste contre l'injustice.
Ces inculpations s'inscrivent dans un contexte local d'impunité pour les groupes d'extrême droite au niveau judiciaire.
Ouais, alors là, le procès, l'idée, c'est quand même de le mettre en perspective avec le contexte politique et particulièrement le contexte local d'impunité totale des fascistes qui depuis plusieurs années attaquent des militants, font des ratonnades, attaquent des manifs, s'en prennent à des locaux politiques, associatifs, syndicaux, sans que jamais le parquet ne poursuive, quoi. La plupart du temps, soit les plaintes ne sont même pas transmises au parquet, c'est-à-dire qu'elles restent dans les tiroirs de la police, soit elles sont classées sans suite par le parquet, sans qu'il y ait d'enquête sérieuse. Donc déjà, c'est de mettre en perspective ça, alors que là, dans le dossier qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a même pas de plainte, on n'a pas de plaignant, il n'y a pas de victime. Là, sur la première partie du procès, à l'énumération des faits, c'est des violences volontaires en réunion commises sur une victime non identifiée, quoi. Sachant que cette victime n'est pas identifiée, néanmoins dans leurs procès-verbaux, les flics nous expliquent qu'ils ont contacté la victime, on ne sait ni par quel moyen, ni qui c'est, mais ce qui donne des indications sur les liens qu'entretiennent les flics avec les milices d'extrême droite. La plaidoirie, c'est de dire que voilà, qu'on est face à une affaire politique montée de toutes pièces par le parquet, probablement téléguidée en plus haut lieu, qui vise à criminaliser nos luttes et qui invite à criminaliser plus particulièrement la lutte antifasciste. C'est de bon ton politiquement de faire ça en ce moment. Je crois que c'est un peu l'agenda politique, médiatique et surtout l'agenda des présidentielles qui se profile avec ce procès. Puis 2016-2017, c'est un peu la folie. Alors il y a eu pas mal d'attaques de la Plume Noire. Donc la Plume Noire, c'est une librairie anarchiste dans les pentes de la Croix-Rousse. Il y a une fois deux personnes qui se sont fait rouer de coups devant la Plume Noire qui participaient à une collecte solidaire. Donc là, dans ce cas-là, la plainte a été classée sans suite faute de preuves, hein, alors qu'il y avait des vidéos, que les agresseurs étaient identifiables, voilà. La Plume Noire, deux fois aussi, s'est fait récemment, casser leur vitrine. Il y a le PCF qui s'est fait, pareil, détruire la vitrine. Radio Canu, qui a été la cible des attaques des FAF à plusieurs reprises. Dans les manifs de Gilets jaunes, on s'est fait attaquer des dizaines de fois par des groupes de hooligans et de néo-nazis du Bastion Social et de Génération Identitaire. La liste est très longue. Il y a même la Maison des Passages qui avait été attaquée en 2017 parce qu'ils organisaient une conférence. Voilà, ça, c'est une pratique absolument systématique de l'extrême droite. Ce qu'on constate, c'est que dans ces cas-là, rien n'est fait par le parquet et que quand nous, il n'y a ni plaignants, ni vraiment de victimes identifiées, on se retrouve, nos potes, ils se retrouvent en tôle, quoi. C'est la politique de deux poids et deux mesures du parquet de Lyon.
C'est plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté leur soutien tout au cours de la journée.
Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes là, par inquiétude et par pour résister au risque de monter, au risque du fascisme, quoi, qui est aux portes de notre...
À 18h, nouveau point. Les inculpés sont interrogés sur les événements des différentes manifestations. Ils explicitent que ce sont bien les militants de Civitas qui ont été les premiers à donner des coups et n'ont fait que se défendre. À ce moment-là, le troisième des sept inculpés est interrogé.
Hein, et puisque, lorsque de temps en temps, il y a un groupe groupuscule qui est dissous, il se reconstitue tout de suite derrière, comment dire, bon, ça rien. Donc là, c'est absolument anormal, c'est un déni de justice, un déni de démocratie.
C'est quoi l'axe de défense principal que vous tenez ?
L'axe de défense principal, en fait, on demande la relax des 7, on ne comprend pas y a pourquoi, et surtout dans cette situation-là, quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de jour d'été, pourquoi les parquets s'acharnent contre nos camarades, tandis que d'autres faits plus graves restent vraiment dans l'impunité.
Le procès est loin d'être fini, mais les soutiens sont toujours là. Vers 19h, fin des interrogatoires. Le procureur réclame 1 à 3 ans d'interdiction de manifestation, du sursis pour les non-détenus et jusqu'à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, au maximum pour l'un des inculpés. La peine minimum est-elle de 2 mois avec sursis? Les avocats commencent alors leur plaidoyer. Vers 20h15, après 2 heures de plaidoirie de la part des avocats de la Défense, ils demandent tous la relaxe pour les 7 antifascistes. On attend le délibéré.
Tout le monde sort, c'est incroyable, j'ai pas plus de détails sur le verdict, mais en tout cas les gens sortent libres et on est super heureux. C'est
il est quelle heure là quand même? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est tard, il est 23h, il est quasiment 23h. Ça fait longtemps qu'on est là, mais c'est super, c'est parfait.
En fait, on vient de passer 6 heures avec ce truc. Alors, et c'est ce qu'on dit depuis le début, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Alors du coup, là, il vient d'y avoir le délibéré et on est trop contents parce que personne ne va s'en prendre déjà. Des gens se sont défendus contre des gens de Civitas et on a passé, ils ont mis 7 heures à s'en rendre compte, les juges, qu'il n'y avait rien. Voilà.
Les violences sont requalifiées, donc ne sont pas reconnues en réunion. L'ensemble des PV qui sont tirés de la vidéosurveillance tombent. Et du coup, les seules personnes qui sont condamnées à des violences le sont sur violence sans ITT, sans la circonstance aggravante de la réunion.
Oui, et sur la base de ce qu'elles ont reconnu. Donc on ne le dira jamais assez. Elles ne pas reconnaître.
Elles sont requalifiées en contravention de 4e classe, et ce qui a été jugé sur 300 euros d'amende pour les personnes reconnues coupables de violence.
Et du coup, il y a 2 personnes qui prennent 1 mois de sursis pour le code de téléphone qui n'a pas été donné en garde à vue, et l'autre personne, c'est sur l'ADN. Voilà. Et du coup, ça fait que les personnes
entièrement relâchées.
On voit quoi là? On voit les camions qui sortent avec les camarades qui vont juste repasser chercher leurs affaires et qui vont sortir après. Les gens sont trop contents, du coup ils crient et il y a eu un petit fumigène pour mettre l'ambiance.
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Niquer les femmes, ça ne fait pas peur même en prison.
Hier, jeudi 4 novembre, à 23h, c'était une victoire.
Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Et c'est pas fini. Une trentaine de personnes s'est retrouvée devant la maison d'arrêt de Villefranche pour venir chercher le camarade qui avait été placé en détention provisoire seul à Villefranche, alors que les trois autres étaient encore là. Le groupe est arrivé vers minuit et demi et il a encore fallu attendre une grosse heure pour qu'il sorte. Les banderoles étaient de sortie et on a mis un peu de musique pour ambiancer la porte de prison.
Comme quoi, il y a des histoires qui des fois se terminent bien. On se rappelle qu'il y a quand même tous les jours des milliers de personnes qui sont envoyées en prison. Il y a actuellement plus de 70 000 personnes qui sont en taule en France. Et qu'il y a toujours plus de personnes qui sont victimes d'une justice de classe, d'une justice raciste. Et que là, pour les copains et les copines, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'il ne faut pas oublier toutes les autres personnes qui sont victimes aussi de procès politiques, qui sont victimes de procès racistes, qui sont victimes de procès de classe ou sexistes. Voilà.
Canu Info, vendredi.
Tu vois la grosse crotte avec du caviar. Du caviar, des crottes de...
La président.
Au ciel.
Rubrique présidentielle.
Bah parce que souvent je critique, on ne connaît pas bien, mais les présidents, c'est une espèce introduite il n'y a pas longtemps. Hein. C'est récent ce truc-là. Avant, il y en avait quasiment nulle part, maintenant t'en votes partout dans le monde, ces trucs.
Et puis ça fait des ravages, hein. C'est pas que ça se reproduit sans arrêt. Nous, chez nous, c'est tous les 5 ans qu'il y en a qui apparaissent. Ça détruit tout plein de formes de goût et tout, c'est vraiment de la merde.
Ouais, mais moi, je m'aime pas, on a foutu nous des présidents. La vieille carte, mon président, vous laissez manger à nos chats, ça
mange. Vas-y, mange les chats, mange les présidents.
Ouais, bouffe tout.
Canu Info, vendredi, rubrique présidentielle.
Et oui, c'est le retour de ce jingle formidable sur les présidentielles. C'est vrai qu'il est long, hein, il est sympa, il est long, on rigole bien quand même. Et voilà. Mais c'est vrai que la période électorale, c'est toujours une période qui est vraiment pétave, qui est vraiment pourrie, qui est, voire même on pourrait dire, mortifère pour les luttes. La parole publique dans ce moment-là est de plus en plus raciste, de plus en plus sexiste. Et du coup, face à cette période sombre, c'est justement le moment de porter des espoirs collectifs de lutte et de solidarité, de ne laisser aucune place à ces discours d'extrême droite. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Zemmour a voulu se pointer à Dijon, et du coup, c'est le premier raté qu'il a dans sa pseudo-campagne présidentielle. En fait, depuis plusieurs semaines, Zemmour devait venir le 6 novembre, soit demain, à Dijon, et cette conférence a été annulée. En effet, alors que le pas encore candidat devait faire une réunion publique au parc des expositions, ça a été annulé. Pourquoi? Le risque de troubles à l'ordre public, et aussi le refus des salles de prêter leurs biens, mais aussi surtout le fait qu'il n'y ait pas trop de relais locaux de la campagne de Zemmour, s'il occupe de manière continuelle les médias nationaux qui se font ce relais de sa logorée raciste et sexiste, c'est ces médias qui construisent de facto sa bulle sondagière et l'échec de sa venue illustre une autre réalité, c'est que Zemmour et sa pensée qu'il véhicule sont pas forcément portés par tout le monde et surtout pas localement, et du coup que c'est possible de les empêcher, malgré le fait que lui il ait des propos extrêmement belliqueux, et on se rend compte que forcément dès qu'il y a une petite opposition, il n'aime pas forcément s'y confronter. C'est tout à fait une très bonne idée de venir l'empêcher de venir. Rappelons quand même que ce gars a appelé à ce que la police tire à balles réelles ou que le consentement mutuel était un mythe. On attend peut-être un meeting de Zemmour à Dijon et pourquoi pas un sbeul des Dalton pour ce meeting.
pompiers.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Et on va enchaîner avec quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a un refuge qui accueille des exilés à Briançon qui a fermé temporairement. Il y avait environ 230 personnes qui se sont retrouvées dans la merde et qui ont investi la gare par la suite. Mais face au risque d'arrestation et de placement en CRA, ils ont plutôt préféré se déplacer dans une église. Jusque-là, tout va mal, mais ça peut toujours être pire. Face à cette situation dramatique, l'État a réagi. On aurait pu espérer des solutions d'hébergement dignes et convenables pour toutes et tous. Mais finalement, il a choisi une stratégie assez étonnante. Donc c'est la préfecture qui a affrété des bus pour les personnes, pour les envoyer un petit peu à Grenoble, un petit peu à Lyon et un petit peu à Paris. Alors, par exemple, le bus qui a été affrété pour Lyon, il est arrivé mardi, il y a une semaine et demie, à la gare Villette. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il est arrivé pour quoi ? En fait, il est arrivé pour rien, ce bus. Il y avait 60 personnes dedans, majoritairement des ressortissants afghans, qui sont descendus du bus. La préfecture a prévenu la Croix-Rouge, qui a eu la générosité de donner une couverture par personne. On sait le froid qui fait la nuit en ce moment. Par ailleurs, la préfecture avait prévenu, il n'y aura pas de flics à l'arrivée. Soyez tranquilles, vous pouvez prendre le bus. Bon, bah les gens sont arrivés et comme vous l'imaginez bien, à 16h30, quand le bus arrivait, il y avait évidemment des soutiens, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de keufs qui étaient là pour réceptionner tout ce beau monde. Toutes les personnes ont été escortées jusqu'à la PAF, puis relâchées simplement après des contrôles, mais finalement personne a priori n'a été gardé. Alors c'est très étonnant quand même de voir ce phénomène-là, de prendre des gens à un endroit, de les déplacer à un autre, et finalement il ne s'est rien passé. Et je trouve que tout ça, ça devrait nous interroger parce que finalement, l'État n'a pas communiqué dessus parce que ça aurait pu aussi servir leur agenda anti-migration. Et finalement, on vient de parler de Zemmour, on est pile dans le thème de cette présidentielle où il semblerait que le problème ne vienne plus du grand capital, mais bien des migrants. Et là, il n'y a pas eu de communication de l'État, il n'y a pas eu d'arrestation. A priori, il y en aurait eu quelques-unes à Grenoble, mais ça reste très marginal. Et finalement, on a juste pris des gens à un endroit. Pour les déplacer, on a payé un bus, enfin, l'État a affrété un bus pour les déplacer, pour les poser ailleurs. Alors effectivement, peut-être la première chose qu'on arrive à se dire, c'est effectivement, il y a peut-être une volonté de diviser pour mieux régner, que 60 personnes à Lyon, c'est beaucoup moins dangereux qu'en avoir 230 à Briançon. Et pour autant, même ça, est-ce que ça justifierait, c'est pas la première fois qu'il y a des rassemblements de personnes, est-ce que ça justifierait l'action de l'État ? Alors peut-être on peut le comprendre autrement, se dire d'une part que peut-être l'État ne sait pas vraiment ce qu'il fait et que finalement ça n'a pas plus de sens pour eux que pour nous et que c'est simplement une stratégie répressive qui est habituellement utilisée et que ce genre de mouvement, il n'a pas ni de sens politique ni de sens même médiatique mais probablement juste une habitude de répression et que ça s'est activé comme ça en mettant des bus et en déplaçant juste des personnes pour les reposer à la rue un peu plus loin dans un autre département. On peut aussi se dire qu'effectivement, face à des actions pareilles qui sont difficiles à anticiper, puisque les soutiens n'ont pas vu grand-chose venir, c'était très difficile puisque ça a éclaté le mouvement, comment est-ce qu'on peut résister et lutter face à des choses qui finalement n'ont pas beaucoup de sens et qui ne sont pas beaucoup exploitées ? Je pense que ça interroge aussi sur effectivement des actions comme ça. Il y a déjà, je pense, un bon moment de sidération et du coup, comment est-ce qu'on peut s'opposer et résister à des débilités pareilles ? C'est pas facile. Et évidemment, c'est toujours et encore l'exercice du pouvoir sur les personnes les plus précaires ou les personnes avec le moins de droits qui vient s'exercer sur elles et constamment leur rappeler, ça simplement peut-être une piqûre de rappel pour leur rappeler qui a le pouvoir ici et à qui ils devront se soumettre. En tout cas, je trouve qu'il reste plein de questions face à tout ça, mais on peut quand même noter qu'aujourd'hui, l'État affrète des bus pour déplacer des personnes qui n'ont pas vraiment d'autre solution que de loger dans une église massivement pour aller les déposer dans différentes villes comme des marchandises qui sont certainement aux yeux des dirigeants, sans proposer plus de solutions, sans même mener une vraie répression comme ils auraient pu le faire. Qu'en dire ? On ne sait plus. C'est tout simplement désespérant et incompréhensible, je crois.
Mais ce qu'on peut se dire, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a quand même du coup une manif qui est appelée samedi prochain, le 13 novembre, à Briançon, justement, en réaction à la fin de l'ouverture du refuge. Et du coup, peut-être que c'est un petit début de quelque chose.
On espère.
Et à Briançon, il faut prendre le train soit à Grenoble, soit à Gap pour y aller.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et l'agenda pour commencer ce soir, on vous parle toujours de l'État qui laisse les gens dehors dans le froid, puisqu'effectivement, il y a notamment des jeunes hommes mineurs qui dorment, pour un certain nombre d'entre eux, dans des tentes montées de la Grande Côte au niveau du jardin de la Grande Côte, hein, donc qui est la partie haute de cette rue dans les pentes de la Croix-Rousse. Et il y a des habitants du quartier qui sont évidemment révoltés par cette situation, qui n'a malheureusement, comme on vient de l'entendre, plus grand chose d'exceptionnel, et comme on a pu en discuter avec les personnes de CG précédemment. Régulièrement, du coup, on l'a vu, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes montées de la Grande Côte. De jeunes exilés cessent d'être pris en charge par la métropole, qui les a jugés notamment parfois plus âgés que ce qu'ils ne seraient, et surtout ce qui leur offrirait des droits. Et c'est cette gestion indigne qui met ces jeunes à la rue, qui fait qu'ils se retrouvent notamment à camper dans ce jardin. Les dimanches de novembre, les voisins, voisines et soutiens appellent à trois dimanches solidaires de soutien à ces migrants du jardin de la Grande Côte. Ça commence ce dimanche. On est invité à s'y retrouver donc ce dimanche 7 novembre, puis ça durera aussi les 14 et 28. On est invité à s'y retrouver de 15h à 17h pour s'opposer aux politiques migratoires. Et il y aura deux concerts ce dimanche, donc Boy, Espoir de Kaloum et Éric Le Rouge.
Vous pouvez y aller rue Béchevelin à partir de 11h.
Et puis quand le week-end sera passé, que faire ? Eh bien, le 9 novembre, il y a une soirée de soutien à l'école autogérée qui se tient à l'Amicale du Futur à partir de 19h. Le 9 novembre, c'est un mardi. Il y aura une soirée à un repas. Alors le collectif de l'école autogérée, on a déjà reçu ici, vous en a déjà parlé, il s'est créé en 2014 avec l'ambition de permettre à des personnes précaires ou en rupture avec l'autoritarisme des moniteurs de passer leur permis de conduire sans passer par les auto-écoles classiques. Si vous avez un pote motivé avec plus de 50 permis, il y a une voiture à double commande qui est disponible et c'est parti pour l'apprentissage entre amis. Plusieurs permis ont été passés chaque année, une brochure faite pour expliquer le fonctionnement existe et 6 autres collectifs se sont créés ailleurs en France sur le même modèle que l'auto-école autogérée de Lyon. Et il était temps de dépoussiérer un peu le projet. Et alors, grande nouvelle, bye bye la Clio de 2001, hein, qui fait une vingtaine d'années, qui est partie vers de meilleurs auspices et bienvenue à une Hyundai flambant neuve pour toujours plus d'autonomie. L'examen pourra être passé cette fois-ci avec la propre voiture, alors qu'avant, avec la Clio, l'apprentissage se faisait sur la Clio, mais il fallait ensuite louer une voiture pour le jour de l'examen. Donc l'auto-école autogérée invite évidemment à venir s'amuser avec de la bagnole, puisqu'il y aura notamment un tournoi de Mario Kart durant cette soirée de soutien.
Mais qu'il y aurait des surprises super.
C'est vraiment la cancel culture.
Je suis aussi très triste.
Donc il n'y aura pas de soirée Mario Kart, mais vous pourrez le faire entre amis avec vos doigts. Et l'occasion quand même sera de rencontrer, surtout l'important, les membres du collectif, d'en savoir plus sur son fonctionnement, notamment si vous voulez passer le permis ou aider un pote ou une pote à passer le permis. Et puis évidemment manger pour soutenir les finances de l'auto-école autogérée. Et c'est donc le mardi 9 novembre à 19h à l'Amicale du Futur, quelque part rue Sébastien Griffe, la Guillotière. Et puis on va reparler tout de suite de l'espace communal Guillotière, puisque les 2e et 4e mercredis de chaque mois, il y a des permanences de santé qui s'y tiennent. Alors, des permanences de santé, je vais vous lire un peu le communiqué, qui dit « Nous sommes un collectif d'accompagnants en santé liés à l'espace communal Guillotière et à ses habitants et habitantes. Ici, la santé n'est pas qu'une affaire de symptômes, mais aussi de conditions de vie, de logement, de travail. Et c'est pourquoi notre collectif s'inscrit dans une dynamique de lutte à l'échelle du quartier. » Les permanences se dérouleront les 2e et 4e mercredis du mois, donc ça commence mardi prochain, le 9 aussi, de 16h à 20h à l'espace communal Guillotière. Il y a une petite présentation. Notre démarche se veut communautaire et s'implante géographiquement dans le quartier de la Guillotière. L'implication des personnes concernées est fondamentale pour un fonctionnement horizontal et autonome. L'accueil est gratuit et anonyme. Le secret et la confidentialité sont des valeurs clés du collectif. Donc l'idée n'est pas de remplacer ou de se substituer au système de santé, mais bien de proposer une vision du soin complémentaire et global de la santé dans un milieu non institutionnel. Voici quelques missions que se donne cette permanence de santé. Donc un accueil inconditionnel, une écoute offerte à toutes et tous, l'orientation vers d'autres structures de soins professionnels selon les besoins des personnes, des explications, et de documents en lien avec la santé, notamment voilà, comprendre une ordonnance, une typologie d'examen, des comptes rendus d'examen aussi. Hein. On sait que tout ça est un langage assez particulier. L'accompagnement aussi à des examens ou à des rendez-vous en lien avec la santé des personnes, et puis des thèmes sur l'éducation en santé, des ateliers en santé pour chacune et chacune. Les permanences s'adressent à toute personne avec ou sans droit, et on peut contacter ce collectif à l'adresse suivante santé-ecg, donc santeecg @riseup.net. Le CG, on vous l'a déjà dit plusieurs fois ce soir, c'est 27 rue Salomon Rénac, enfin l'annexe à Lyon. Et puis, pour finir, toujours sur la question du soin, le groupe soin dont on vous a déjà parlé reprend ses activités avec deux nouveaux ateliers en cette fin d'année, l'un sur la mort qui a déjà eu lieu et le deux prochains sur l'effet placebo. Donc ça, c'est le jeudi 11 novembre, donc la semaine prochaine, et un autre ensuite sur le cannabis thérapeutique le jeudi 9 décembre. Le groupe soin se réunit, eh bien c'est une bonne question. On n'a plus, c'était à la Griffe, fut un temps, mais...
Je crois que c'est à l'Amicale maintenant, toujours quelque part, rue Sébastien Griffe.
Quelque part, rue Sébastien Griffe. En tout cas, vous retrouverez l'information sur rebellion.info, un site qu'on aime bien parce qu'on lui vole toutes ces infos. Et puis, l'atelier du groupe soins sur l'article présent sur Rebellion, notamment, a mis en page une annexe qui explique son fonctionnement, une brochure, pardon. Et c'est reparti, donc atelier sur l'effet placebo le 11 novembre et sur les cannabis thérapeutiques le jeudi 9 décembre.
Et à Radio Canu, nous on sait pas trop ce que c'est que la cancel culture, par contre la cave culture on connaît bien.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire à cave?
Radio Canu.
Mais alors, qu'est-ce que les auditeurs et les auditrices qui ont appelé au 04 118 39 18 15 vous ont donné comme ACAB ce soir?
Eh bien écoute Mathieu, d'après une auditrice en tout cas, ACAB ce soir ça veut dire l'annexe c'est chouette, on y apporte des brochures.
Et il y en a une autre qui apparemment, parce que ACAB veut dire les antifascistes contre une accusation bredouille.
Alors attends, parce qu'il y a eu, des des gens qui ont voulu te censurer, tu peux redire s'il te plaît.
Je répète, les antifascistes contre une accusation bredouille.
Ah voilà, eh ben super, génial. Le canon pour du vendredi soir.
19h59.
C'est terminé tout de suite, c'est Noise Pollution. Noise Pollution, je crois que c'est une émission bien connue de punk hardcore japonais, c'est ça ou pas? Exactement, c'est
mais
ça.
Mais une
c'est...
fois ils ont passé du coréen, ils se sont trompés.
Ah merde. Et d'habitude ils ont un jingle, ça fait voilà, on l'a pas, alors ça arrive, voilà. Du coup, on va remettre les bandes 24-24 et du coup, Canu Info revient la semaine prochaine, enfin revient lundi pour être complètement honnête. C'est la semaine prochaine, voilà. Merci beaucoup, j'essaie de tenir jusqu'à 20h, je vais pas y arriver. Désolé, allez, bonne soirée, ciao.
Salut.